night. Gonna let it all hang out. After midnight, gonna chug along and shout. Gonna stimulate some action. Gonna get some satisfaction. Gonna find out what it's all about. Gonna shake your tambourine. After midnight, going to eat peaches and cream. Gonna cause dark and suspicion. Gonna give an exhibition. Gonna find out what it's all about.
Voilà, c'est parti, vous êtes en direct du Temps Machine sur les ondes de Radio Campus Tour. On est dimanche dans l'après-midi.
Ouais,
une heure et demie passée par là.
Ouais, un petit poil de retard sur les horaires, mais c'est bien, c'est dimanche justement, c'est le rythme dominical, c'est bien. Donc on est ici, pourquoi on est au Temps Machine aujourd'hui en vivant et en direct? C'est parce qu'il se passe le Temps d'un Disque 3e édition, une bourse au disque organisée par le Temps Machine, par Nové Nové Cinco, et puis également avec une, quand même une belle griffe Radio Campus Tour. Donc beaucoup d'exposants, pas mal de monde qui vient aussi chiner quand même. Et surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de très belles pièces pour les amateurs de musique. Il y a un énorme écho là, je ne sais pas si c'est moi ou moi.
Si, ça s'est ouvert. Effectivement, c'est le réglage du direct, c'est peut-être le retour. Ouais. Et là.
Et bah là, c'est.
Et là, c'est bien.
Bah, c'est presque pareil, mais écho. C'est mieux quand même.
Okay. Presque pareil, mais mieux quand même.
Et donc voilà, en l'occurrence de Stéphane qui a ouvert cette émission, Mathilde.
Bonjour. Bonjour.
Et donc, on va accueillir, là on a une heure et demie d'antenne, on est en direct jusqu'à 15h, et on va accueillir différentes personnes actrices de cet événement, et on commence bien évidemment par Monsieur Anthony, aka Inverse. Si tu apprécies Funky 80s Hip-Hop et que tu traînes un petit peu tes guêtres sur la scène Tourangelle, tu ne peux que le connaître. Et pourquoi Anthony est ici? C'est parce qu'il est quand même beaucoup, beaucoup à la base.
Parce que la rediffusion à Vic Funk a sauté.
Oui, c'est pour ça.
Il fallait rattraper le
temps. Faudra en parler à l'équipe d'antenne.
Non, initiateur quand même, initiateur principal de cet événement, on peut le
ouais,
dire.
Ouais, mais soutenu, énormément soutenu bien sûr par Campus LNC. Enfin voilà, de toute façon c'est un travail d'équipe. Et oui, c'est la troisième édition. Voilà, et c'est super plaisir. Enfin, c'est un plaisir de refaire un plateau radio live comme on avait fait la première année aussi avec Samuel. Dédicace à lui s'il nous écoute.
Big up.
Yes.
Voilà. Et ça manquait aussi parce que pour moi, ça va de soi. Un projet radio disque, d'avoir un plateau live, c'est quelque chose qu'on peut mettre en termes, enfin, radiophoniquement. Il n'y a pas besoin d'avoir d'image pour parler de vinyle et de label. Voilà.
Bah en plus, enfin, c'est des supports qu'on, enfin, c'est, en tout cas, c'est des supports qu'on peut mettre en parallèle sur bah, une volonté aussi de s'informer et d'écouter de la musique. Quoi.
Exactement, exactement.
Ouais, elle est venue d'où toi cette idée de monter ces événements ?
Eh ben, bon, moi à la base, je suis disquaire. Je suis sur campus aussi, je sais pas, depuis 6 ans peut-être, voire un peu plus, je sais plus. Et bah voilà, de toute façon, on cherchait des idées dans les fameux AG de campus ou Nové Noichinko pour voilà,
dynamiser,
faire rentrer aussi un peu de sous pour l'assaut pour pouvoir travailler après sur d'autres projets, plutôt de compte plus à but non lucratif. Et moi, en tant que disquaire et en tant que chineur de disques aussi, surtout, je savais qu'il manquait quelque chose au printemps, avant les brocantes, qu'il y avait aussi la grande convention de béton, qui est aussi une institution au mois de novembre. Et sur cette période-là, c'est-à-dire à partir du mois de novembre jusqu'à avril, il n'y avait plus rien.
C'était un petit peu long, ouais.
Voilà, on était en manque, nous, les aficionados du vinyle, quoi. Il nous fallait de la cam. Et donc, voilà. Et c'est vrai que la première année, quand on l'a fait, on avait fait ça, je crois, c'était au mois de mai. Je sais plus. Oui, je crois que c'était
on avait même fait avant ça, je crois.
Non, on a fait avril.
C'était le Discardé, je crois, la toute première.
Ah oui, ouais, il y avait une première édition avec le Discardé en rapport avec
Discardé.
Parce
que ça tombait à peu près dans ces dates-là.
Et voilà, on avait fait, je crois, sur le week-end qui suit le Discardé, je ne sais plus exactement, mais bon, c'était sur le mois d'avril. Après, on a eu mai, je crois, l'année dernière, il me semble. Si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus. Et là, du coup, mois de mars, et c'est vraiment la date, mois de mars, c'est très bien. Il fait pas encore super beau.
Et après, c'est vrai que conventions de vinyle, vous avez aussi un programme, j'imagine.
Bah, les conventions de vinyle dans toute la France, il y en a tous les week-ends.
On va dire régional plutôt.
Bah, y en a aussi quasiment tous les week-ends.
Ouais,
voilà, c'est devenu aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu des types d'événements que tout le monde veut faire à Sceaux, parce que c'est vrai que c'est quand même un moyen. Il y a le revival quand même du vinyle depuis des années, donc c'est vrai que c'est un moyen de faire venir du monde à un événement et d'avoir un contenu en plus, donc avoir des exposants. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les assos organisent des bourses aux disques. Maintenant, c'est aussi de faire aussi un peu quelque chose de nouveau au niveau des bourses aux disques. C'est ce qu'on fait aussi avec celle de NNC, quoi, puisqu'on y ajoute aussi pas que des exposants, on y ajoute des animations que vous avez présentées peut-être juste après. Et voilà, il y a des platines ouvertes, un plateau radio, enfin, on le voit pas sur toutes les conventions. Et voilà, et donc quelque chose d'une petite touche de fraîcheur.
Et puis le lieu aussi.
Et le lieu qui s'y prête. Voilà, parce que ça, c'était ça aussi le problème à Tours et le problème dans beaucoup de villes, c'est de trouver un lieu qui est capable d'accueillir quand même plusieurs centaines de personnes sur une journée. Voilà, et d'accueillir aussi des exposants, puisqu'il faut mettre aussi beaucoup d'exposants. Et on le voit ici, les auditeurs ne le voient pas, mais les bacs à disques prennent beaucoup de place.
Oui.
Avec un accès facile, avec les voitures pour parking, etc. Et le temps machine aussi s'y prête. Ça a un sens aussi. Je trouve ça beaucoup moins froid que les autres conventions que j'ai occasion d'aller, que ce soit des fois dans les salles des fêtes, ou les salles de MJC, ou dans les hangars, et voilà, où là on entrepose juste des exposants, c'est des mètres et des mètres linéaires de bac. Et voilà, là il y a un endroit quand même qui est vivant. On sait que voilà, il y a eu une semaine, il y a un concert ici, voilà, il y a un bar, il y a des gens. On va voir cet après-midi surtout le public du Temps Machine qui va être là, parce qu'ils ont été aussi alertés par les réseaux sociaux du Temps Machine, et donc ils vont voir le Temps Machine sous une autre manière aussi, pas forcément que salle de concert, mais aussi salle d'exposition, et voilà.
Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'idée de très cohérente dans tout ça. Enfin, un lieu culturel, lieu musical, la possibilité de, encore une fois, comme tu disais, donc faire venir un média radio, d'être dans la promotion d'un support musical particulier. Et voilà, et de rendre aussi cet endroit-là, comme tu disais, vivant un dimanche qui n'est pas.
Oui, voilà, parce que normalement, une salle de concert, un dimanche, théoriquement, c'est toujours fermé, il ne se passe vraiment rien. Là, on est dans une ville de Joué-les-Tours où, moi, en tant que Jocondien, le dimanche, il ne se passe strictement rien non plus. Dédicace, Mike. Donc voilà, et c'est vrai que même pour le temps machine, ça leur permet aussi de faire vivre le lieu différemment un dimanche qu'un concert. Et...
Puis les SMAC, c'est aussi leur mission de d'ouvrir à tous.
Voilà, et inversement, il y a des gens qui viennent pour le disque, j'en ai eu plein ce matin, j'ai même une personne qui travaille à la poste de Joué Tour, qui a jamais mis les pieds.
Ici
qui venait, qui venait ici, qui travaille à la poste juste en face.
Oui, c'est vraiment pas loin.
Qui a jamais mis les pieds au temps machine et qui allait aujourd'hui pour voir les disques, mais qui n'allait pas voir.
Parce que peut-être le programme lui l'attire.
Peut-être, maintenant, peut-être le fait de voir une salle de concert qui a son cachet aussi. Et voilà, peut-être que ça va l'encourager aussi à revenir voir des concerts au temps machine, à voir un lieu qui n'est pas froid, et qui est vivant.
Puis eux, ça leur permet de valoriser des maisons de disques ou des producteurs locaux qui n'ont peut-être pas d'autres occasions de venir ici se montrer.
Sauf qu'on sort un concert pour le merchandising, ils ont une visibilité.
C'est quelque chose qu'on n'a pas dit encore. Alors déjà, la première chose quand même à signaler, c'est que concrètement, tous les espaces ont été pris. Ça veut dire que le temps machine est complet en termes d'exposants
vinyles. Ça fait déjà la deuxième année qu'on est complet, refuse du monde à la fin. Malheureusement, on ne peut pas pousser les murs. On a des normes de sécurité à respecter. On a mis le maximum d'exposants qu'on pouvait. Le moindre centimètre est occupé, centimètre carré occupé. Il reste le parking, mais bon.
Il y a eu d'après discussions avec le SIAP, mais on y est arrivé. Ça s'est fait en bonne intelligence.
C'est des histoires de métrage de centimètres avec des piges de sécurité respectées, parce que le vinyle ça brûle facilement.
Ça fait partie des choses.
Ça fait partie des choses. Dans un événement, on fait pas ça non plus la légère. C'est plein de choses à respecter.
On est même sérieux en faisant ce genre de choses.
Quand même.
Ah ben oui.
Quand même. Avec aussi des bénévoles, qui étaient là aussi pour nous aider, installation des tables, etc. Et pour accueillir dans les meilleures conditions quand même les exposants. Il y en a quand même qui viennent assez qu'on fait 200-300 km.
C'est ça, il y a aussi cette diversité. Alors déjà pour dire ça implique l'idée que ça soit plein, ça implique qu'il y a des dizaines de milliers de vinyles, sachez-le.
Largement.
Ouais, qui sont pas encore venus, donc il y a vraiment un choix qui est énorme. Et puis je voulais rebondir sur autre chose, mais ça y est, j'ai mangé mon idée.
Il y a des labels visibilité des labels
locaux.
On fait l'effort de recevoir aussi des labels du coin, plus ou moins du coin. Qu'en effet, comme tu disais, qui n'ont pas forcément l'opportunité, hormis quand ils font jouer un artiste, qu'ils ont leur stand merchandising le soir du concert, mais qui n'ont pas forcément l'occasion d'être visibles auprès justement des acheteurs de vinyle. Et là, parce qu'en général, c'est des labels qui éditent en vinyle qu'on a reçus aujourd'hui, ou en cassette, ou même en CD, en tout cas qui vendent du support physique et qui touchent enfin un public qui est lui consommateur de support. Et donc, c'est vrai que c'est pour eux, c'est quand même bien d'avoir cette visibilité-là.
Et puis c'est la diversité des exposants, c'est-à-dire du particulier au label, en passant par les shops aussi, des gros diggers qui sont là. Je me permets un petit clin d'œil vers Anthony.
Non, on a des boutiques physiques en effet aussi qui font l'effort, faut le savoir, une boutique physique c'est compliqué de se déplacer. Alors c'est sur un dimanche, mais eux ça leur oblige le samedi à enlever le stock marchand du magasin, à le charger dans le véhicule. Ils renchaînent, des fois ils rouvrent le lundi, ils renchaînent le lendemain, il faut remettre le stock dans le magasin, c'est quand même des organisations. Donc on est là quand même aussi pour les accueillir dans des bonnes conditions.
Et du coup toi tu dirais en tant que personne qui fréquente pas mal ce genre d'événement, ça se développe quand même il y a plus de bourses au vinyle.
Forcément, il y a tout le monde, il y a quand même un but lucratif derrière, que ça soit pour l'organisateur, parce que pour l'asso, ça fait une rentrée d'argent pour l'asso qui organise, pour les exposants qui viennent participer, là, c'est vraiment un but lucratif, c'est un métier. Enfin, il y a quand même beaucoup de disquaires, sauf un particulier qui fait ça peut-être aussi pour s'amuser. Mais oui, avec le revival du vinyle, il ne faut pas.
Un disquaire se doit maintenant d'être.
Il y en a qui font pas, c'est vrai que ceux qui ont des boutiques physiques font pas forcément des salons parce qu'ils ont déjà une visibilité. Maintenant des disquaires comme moi qui vendent majoritairement sur internet, moi j'ai un besoin d'aller voir aussi d'avoir du contact physique. Je peux pas rester longueur d'année devant un dernier ordinateur et envoyer des commandes par la poste de quatre coins du monde. C'est bien aussi d'avoir un contact physique, de discuter avec des passionnés de vinyle. Et donc c'est vrai que pour répondre à ta question, avec le revival du vinyle, faut pas se mentir, il y a énormément plus de conventions qu'il y a eu. Avant, c'est vrai qu'aujourd'hui, rien qu'on va dire sur le secteur ouest, aujourd'hui, il y avait la convention de Bourges, il y a la grande convention de Bordeaux. Déjà, c'est sur un périmètre de 300 km, on va dire, on a déjà trois conventions. Donc, je ne parle même pas sur le reste de la France.
Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut, si ça se développe comme ça, qu'est-ce qui peut
faire, tant qu'il y a de la demande, tant qu'il y a de la demande, en fait, il y aura énormément de conventions
disques pour se renouveler. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il y a des, donc ici peut-être.
Alors.
Des animations, mais
tu parles au niveau des organisations. Bah, d'autres sont restés. Il y a des conventions qui sont devenues des institutions. Donc, pour reprendre celle de béton, ils n'ont pas besoin, je veux dire, d'animation pour redynamiser la chose. C'est devenu une institution en tour aussi, la convention
BD
de béton.
Il y a la
BD aussi
croise,
qui est là. Il touche aussi le public BD. Inversement, on va sur des salons et on le voit avec certains dans le temps. Il y a des salons qui vieillissent, des conventions disques. Quand je parle de salons, mais des salons disques, des conventions qui vieillissent parce que c'est resté assez justement vieillot. C'est-à-dire, c'est juste des exposants posés dans un endroit qui est des fois un peu froid. Ouais, ça peut être une MJC, enfin voilà, c'est pas, c'est un peu glauque.
T'en veux au MJC, hein.
Non, mais.
Plusieurs fois que tu les cites, on sent qu'il y a un passif irrésolu.
C'est vrai que les MJC me font penser tout le temps aux locations de salles des fêtes pour mariage, tu vois, dans les villes,
ah,
tu
oui.
vois, le truc un peu froid.
Ah,
voilà,
okay,
c'est ça, c'est okay, mon okay. vécu de DJ qui parle.
Non, mais c'est ça qui est rigolo,
pas
c'est que.
Souvenir.
On parle avec
voilà.
ses émotions.
Mais en gros, voilà, des petites salles du coin, et donc ça vieillit, et du coup, ça draine aussi un public peut-être un peu vieillot du disque, parce qu'il faut pas oublier qu'en effet avec le revival du vinyle qu'on a touché quand même un nouveau public qui est très jeune, du coup qui achète énormément sur internet et
ouais.
ils ont le choix genre, voilà, ils ont le choix d'acheter sur internet ou d'acheter en salon, donc faut aussi les attirer en convention,
c'est tout l'objectif.
C'est le choix des canaux en fait finalement, voilà, dont on parle depuis tout à l'heure,
ouais, c'est exactement ça
à l'heure actuelle.
Et je voyais dans d'autres villes, ils proposent parfois des ateliers. Ça va être
on pourrait.
Autour du hi-fi.
On a plein d'idées. On a
ici Autant Machine, je sais pas si
on,
ils ont
bah, on,
ça,
on
mais...
pourrait encore. Ils mettent encore plein d'idées.
Après,
c'est vrai que cette
place.
Année, il y avait la possibilité. On voulait y mettre des ateliers scratch
ouais,
en vinyle.
Exemple.
Voilà.
Ouais.
Bon après, c'est une faute de temps aussi.
En hi-fi,
on pourrait proposer peut-être des ateliers ou un espèce de repair café, c'est-à-dire que les gens viennent avec la vieille platine vinyle et on répare sur place. Il y avait Radio Sion Plus qui est venu ce matin, le magasin d'électronique à Tours. C'est vrai qu'ils pourraient proposer de venir avec ses pièces détachées. On change les courroies des platines, les gens repartent avec leurs platines. On pourrait faire un Reaper Café.
On va pas faire de promo, nous, c'est ce qu'on va faire le mois prochain à la ressourcerie.
Voilà, mais voilà.
Sur un troc au disque, donc c'est différent, c'est pas une convention comme ça de
professionnel. Non, mais voilà, c'est le fait de mettre des animations un peu plus. Ouais, voilà.
Bah, c'est le taf de la ressourcerie, mais
oui,
après.
C'est quelle date à la ressourcerie?
C'est le 27 avril. Troc au disque et réparation. Après, c'est pas un atelier. Où il y a un animateur, on va dire, c'est les gens qui sont un peu dans la débrouille, mais comme dans les Reaper Café en fait.
Oui,
il y a quelqu'un
ouais.
qui va chapeauter, mais c'est pas que.
Mais justement, voilà, on avait parlé avec Mathieu de Unitivab, voilà, on voulait faire aussi peut-être pendant un moment un espace carrément reggae, comme ils organisent aussi des petits
rock
au disque reggae.
Donc
peut-être faire un corner que reggae dans un endroit du Temps Machine. Enfin voilà, c'était. Il y a plein d'idées, justement, c'est ça qui est plutôt positif pour les années à venir, sur les prochaines éditions, et qu'on va faire évoluer, et du coup, chaque visiteur, chaque année aura un nouveau contenu. Voilà.
Parce que ça veut dire qu'on est sur quelque chose d'inspirant et c'est très bon signe quoi. Et puis c'est vrai effectivement, il y a plein de choses à penser.
Le côté réparation est aussi un peu en vogue. Enfin,
bah aujourd'hui on est en système
forcément...
D, en do it yourself et.
Puis il y a déjà plein de matos qui existent.
Et puis c'est vrai il y a des magasins.
Justement ils ont des dizaines d'enceintes. Enfin j'imaginais pas qu'il y avait autant. Autant de matériel hi-fi en fait qui existe. Enfin voilà.
Il y a Guillaume tout à l'heure qui vont peut-être vous allez recevoir une vintage référence aussi qui est là aujourd'hui. Pour vous répondre à vos questions techniques, si vous retrouvez une vieille platine dans le grenier de votre grand-mère pour la remettre en route, il va vous expliquer les précautions à prendre avant de la remettre en route.
Est-ce que c'est pas quelque chose qu'Inverse y fait un petit peu aussi?
Faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'obsolescence programmée non plus, donc le matériel est censé encore fonctionner, contrairement au matériel d'aujourd'hui, mais il y a aussi des précautions à prendre avant de le brancher. Mm-hmm. Et donc voilà, il y a Guillaume aujourd'hui dans l'espace IFI qui représente Vintage Référence, qui est là pour vous aider à comment remettre en route, vous pourrez rallumer votre ampli du premier coup, votre platine, ou si c'est bon, aller à la poubelle,
Donc si vous avez des petits soucis avec votre matériel, vous savez, vous pouvez passer cet après-midi aussi au Temps Machine.
Il est là.
Vous pouvez aussi aller sur un site qui s'appelle Basspastor, c'est ça?
Oui, alors moi, je vends aussi du matériel IFI, Et puis, il y a Guillaume aussi qui est là aujourd'hui, qui vend du matériel IFI aussi, quand on est des systèmes IFI. Si vous voulez venir écouter de la musique sur ces systèmes IFI, qui sont sympas, et voilà.
Donc voilà, juste pour rappeler un petit peu, donc là on est au Temps Machine, on a plein d'exposants, plein de vinyles, plein
et
de
CD. Et il y a à manger aussi.
Il y a à manger, il y a du DJ set, il y a un studio radio, il y a du conseil IFI, et puis on va te laisser peut-être retourner justement à ton stand, Anthony.
Oui, je vais y aller, je vais laisser la place au prochain invité.
Ouais.
Et alors,
merci beaucoup d'être venu. Et
on demandait, je crois, à nos invités de proposer un disque.
Je ne savais pas quoi prendre.
Une musicale, t'en avais trop, tu ne savais pas choisir.
Voilà, j'ai emmené Aristide Development, l'album, et dessus on retrouve le morceau Is Mama. C'est un morceau que je mets toujours en soirée et qui m'a bercé dans mes années hip-hop, voilà, qui est okay. Cool et qui est cool pour un dimanche après-midi.
Très bien.
Parfait.
Et bon merci choix. En tout cas d'être ouais. Passé sur le petit plateau de Campus.
Ouais, et puis, merci et puis big up pour l'organisation.
Et donc nous on va recevoir juste après, je crois que c'est le label Un Jeune C'est Quoi.
Exactement, on va arriver là.
Très bien. Hop. Donc une petite pause musicale
ouais.
Et on se retrouve tout de suite après sur les ondes de Radio Campus Tour.
99.5 FM, donc Anthony cale tranquillement son vinyle. On attend le petit pouce en l'air pour nous dire quand ça peut partir. On vous rappelle juste, ça se passe autant machine et c'est jusqu'à 18h.
Et nous, on est encore en direct, ouais, une bonne heure.
Ouais. Jusqu'à 15h.
Ouais, jusqu'à 15h.
Sur 99.5.
Ouais. Et bah, c'est parti, Aristide
Development. Le petit pouce en l'air a été levé. A tout de suite. Le DJ nous fait signe que c'est la fin. Et c'est bon, vous êtes toujours sur Radio Campus Tour, retour sur le 99.5, et ce, en direct jusqu'à 15h. Et on est là avec le label Un Je Ne Sais Quoi. Bonjour.
Bonjour.
Non.
Voilà, c'est ça. J'avais l'impression que c'était un petit peu vide ce casque aussi. Ça fait du bien d'écouter un petit Aristide Development en tout cas. Voilà. Donc effectivement, on continue d'accueillir différentes personnes qui sont actrices et actives sur cette bourse de disques, cette convention, ce salon, peu importe le terme qu'on utilise, à partir du moment où ça parle aux personnes. Et c'est Guillaume, donc du label Un Je Ne Sais Quoi, label Tourangeau, qui est parmi nous maintenant tout de suite. Bonjour Guillaume.
Bonjour, en effet. Je confirme ces informations, je suis Guillaume dans Je Ne Sais Quoi et je suis présent à ce salon, cette bourse au disque, comme on l'appelle, autant machine. c'est bien moi, en chair et en
cool,
os.
Cool, je suis rassuré. Ouais.
Alors ne confondez pas, ce matin c'était mon collègue Nicolas qui était là, pour ceux qui sont passés, non, deux personnes différentes.
Deux personnes différentes.
Voilà, il y a eu deux personnes différentes à ce stand.
Et on peut dire que Nicolas est absent.
Et voilà, lui, il est plateau. Parti. Absolument. C'est bon.
Et donc, tu viens de nous présenter le label, pas que, mais.
Le label et l'agence, et puis la distro aussi, puisqu'on a sur notre stand plein d'autres choses, puisqu'on vient présenter évidemment nos disques autant machine, ça paraît être une évidence, puisque ce sont des vieux partenaires et puis des amis. Et évidemment, ça paraît logique qu'un label soit ici dans un salon de disques. Et puis, on a aussi ramené des copains avec nous, parce que tout le monde ne peut pas être présent. Donc, on a d'autres labels avec nous dans notre distro. Kitty Bong de Nantes, Attends Rêver du Roi à Pau, les disques de Figure Libre à Vendôme. Voilà. Et puis, plein d'autres copains qui sortent des disques sur le territoire national et puis qui travaillent avec nous de près ou de loin. Voilà.
Ok. Et alors, tu te fais porte-parole, mais porte-musique là pour le coup, ramener tout le monde dans ce salon. Est-ce que comment on pourrait commencer à présenter peut-être le, parce que tu nous parles déjà du réseau de label, mais peut-être présenter le label.
Et ben, le label donc il s'appelle Un Je Ne Sais Quoi, qui est né à Tours en 2006, qui a été cofondé par moi-même et une femme qui s'appelle Sarah Lacroix, qui était avec moi au départ de cette aventure et qui avait une petite particularité, c'était qu'elle avait une thèse de management musical. Et du coup, moi, j'étais plutôt musicien et sur le terrain, et notamment sur le terrain de l'autoproduction, dans une esthétique plutôt rap. Donc, c'est pour ça que j'ai tiqué sur le Aristide Development tout à l'heure. Et du coup, on a associé un petit peu nos savoir-faire pour monter cette structure. Et puis après, l'histoire, évidemment, est très longue, puisque 2006-2019, ça commence à faire. Plein de choses, plein de gens. Plein de groupes, plein de projets.
Parce que oui, tu parles de structure, effectivement, on en parle un petit peu hors antenne avant la prise de micro, et vous allez au-delà du label.
Oui.
Vous avez un gros panel d'activités.
Oui, alors on a déjà, même au sein de la maison de production, au sens premier du terme, on va au-delà de la musique même. On a des liens assez forts avec les arts visuels. J'en reparlerai certainement quand je vais présenter le disque que j'ai ramené pour cette fin d'interview. Et puis après, à côté de cette maison de production où on peut toucher à l'art visuel ou à l'audiovisuel, on a en plus une agence qui est là depuis le début aussi, où là on offre des services qui sont en lien évidemment avec tout ça, hein, donc qui peuvent aller pour faire le plus large du design sonore pour d'autres structures, pour des gens sur le web, sur des spectacles de théâtre. Et on fait aussi de la prestation de comptabilité culturelle. Voilà. Donc autant vous dire que le grand écart est très large, en fait. Et cette richesse vient de la complexité et de la richesse qu'on a chacun. On est trois salariés. Donc chacun ramène ses compétences.
Et ça se construit au fur et à mesure.
C'est vraiment pyramidal. On fait des fondations et puis après on rajoute des choses.
En fonction de vos
capacités
à chacun.
Bah, pour dernier exemple, Nicolas qui était là ce matin, avant d'être salarié de l'association, il était chargé de production et administrateur autant machine. Et avant ça, il était chargé de production et programmateur à Béton Prod. Donc bah voilà, il a forcément. Puis avant ça, il a fait d'autres choses dans sa vie. Donc il a plein de bagages. Donc l'idée, c'est de ramener tout ça et de faire vivre tout ça dans ce projet.
Et alors là, aujourd'hui, je sais pas, justement dans ce projet, quels sont un peu les axes, je sais pas, des choses que vous allez mettre à terme
au sens production et esthétique, c'est très précis par contre, parce qu'on est co-directeur artistique avec Nico, Et on s'est trouvé pour une raison très particulière, c'est de développer justement ce, on va dire, ces liens qui sont présents depuis le départ sur le label, mais qu'on essaye de densifier un peu entre justement la musique et les arts visuels. Alors on est tous les deux, alors lui est très très féru d'art visuel, moi je suis très féru d'illustration sonore lui aussi, mais donc on a on va dire des amours et des désirs communs, et on essaye de développer ça. Alors c'est avec l'opportunité d'un label, hein, c'est-à-dire qu'on fait aussi avec ce qu'on croit, ce qu'on voit. Et donc très récemment, on a eu des projets, notamment hier, il y avait un concert pour Superflu au Musée des Beaux-Arts, et voilà, c'est l'exemple ça, typique c'est, ouais. De ce qui peut arriver sur le label, c'est-à-dire un projet qui mêle vraiment le travail d'un artiste numérique, un plasticien, d'un musicien, et puis nous derrière, dans un travail de production, d'édition.
Mais ça, la pluridisciplinarité, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne... Enfin, qui se développe pas mal sur certains projets.
Oui. On a
encore plus avec le numérique, bien sûr. Oui, mais oui.
Et puis, on peut avoir un équivalent. L'année dernière, on a sorti un projet qui s'appelle Les Cosmorons, qui est un objet déjà assez étrange, qui est sur notre stand, qui est un double CD, en fait, qui est un conte en 20 épisodes, qui a été fait par un comédien qui s'appelle Arnaud Aymar, que j'ai mis en musique, parce que je suis aussi musicien. Et en fait, ça a été mis en forme plastique par des élèves de l'agglomération de Blois, avec la Fondation du Doute, qui est le musée Fluxus de la ville de Blois. Donc un projet assez aussi conséquent, mais dans des formes
mais
très...
qui rentre aussi dans l'action culturelle,
voilà,
etc.
Mais qui est aussi, très, voilà, qui est aussi en lien avec l'enfance, qui est aussi en lien avec un travail d'écriture et de comédien qui est assez particulier, parce que Arnaud Aymar est plutôt dans le domaine de l'absurde. Voilà. Donc ça peut prendre vraiment des couleurs très très différentes, mais il y a toujours à peu près les mêmes éléments, puis la même exigence évidemment, parce qu'on on a nos valeurs, on a nos...
Et vous arrivez à vous limiter quand même, parce que je me dis ça peut vite partir un peu.
Ça c'est l'avantage, c'est l'avantage de l'argent.
Ah, j'ai un projet.
C'est l'argent qui limite. On peut remercier le marché capitaliste, c'est lui qui nous limite.
Oui.
On est évidemment limité à la quantité et à notre trésorerie, mais même si on se plaint pas, parce qu'on a quand même la chance de mener des projets qui nous plaisent vraiment, et c'est quand même une chance aujourd'hui de pouvoir faire ça.
Ce qu'on entend en tout cas dans ce que tu nous présentes là, et pour en avoir parlé un peu avec Nicolas ce matin justement du concert d'hier, enfin de la performance d'hier au Musée des Beaux-Arts, on sent que vous êtes dans une volonté de rencontre, se faire rencontrer les disciplines, se faire rencontrer les artistes autour de performances live.
Ouais, je suis même pas sûr qu'on pourrait vraiment parler de volonté. C'est presque, on fait ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on aimerait faire. Alors c'est vrai que il y a certainement des grandes lignes qui se dégagent comme ça, mais c'est pas pensé comme ça avant. C'est-à-dire qu'il y a pas une réflexion politique ou esthétique oui. aussi forte en fait. C'est vraiment, il y a une sorte de naturel en fait, je pense, dans les rencontres et puis dans la construction au fur et à mesure du temps. C'est des choses qui prennent vraiment vraiment beaucoup de temps et ça fait plus de 10 ans qu'on est sur tour, et ça fait plus de 10 ans qu'on a des partenariats avec des gens, qu'on développe des choses, et tout ça se construit en fait presque, j'allais dire naturellement, c'est évidemment pas le cas,
mais
comme tu
aussi,
disais tout à l'heure, il y a une forme de sédimentation qui se fait naturellement de gens.
Déjà vous, à la base, vous êtes pluridisciplinaire, vous avez chacun plein de capacités, donc c'est logique après d'aussi développer ça dans ses projets, quoi.
C'est intéressant, c'est de comprendre qu'en fait, en gros, ça va de soi, on peut presque dire ça comme ça.
Oui, alors par contre, oui, là, c'est en effet, notre troisième collègue, Cécile, qui est plutôt dans le travail de comptabilité et de gestion de projets culturels, elle est plutôt du domaine du théâtre, mais en même temps, elle a eu une des plus... Des associations les plus vivaces sur le territoire dans le 28, qui s'appelait La Voix du Lézard, qui faisait de la musique, qui faisait des arts visuels, enfin... Donc en fait, oui, c'est naturel pour nous de se dire qu'il n'y a pas vraiment de frontières, de limites. Après, le cœur du projet, c'est la musique.
Ouais.
Ça, c'est sûr qu'on ne deviendra jamais une compagnie de théâtre, même si on travaille avec eux.
Mais est-ce qu'il y a pas quelque chose qui est aussi du domaine... Enfin, vous trois, du coup, c'est quand même, vous avez bossé pour d'autres choses avant, et c'est votre expérience en fait qui a fait qu'aujourd'hui, l'agence puisse proposer un réseau et plein de choses différentes aussi.
Ouais. Mais c'est pareil, c'est pas...
Ça va de soi.
Mais
après, des fois, les maisons où vous êtes passé avant qui font que les portes s'ouvrent petit à petit, quoi.
Oui. Alors sur le territoire, évidemment, ça, on se, commence à être connu un petit peu évidemment des autres acteurs. Il n'y a pas, beaucoup d'acteurs qu'on ne connaît pas ou qu'on n'envisage pas, mais on se construit quoi. C'est vraiment un peu comme une construction, comme une quête philosophique personnelle quoi. C'est juste que c'est une quête philosophique mais de musique, enfin de production musicale du coup.
Et alors justement, si on parle de musique, est-ce que vous défendez une ou des couleurs musicales particulières?
C'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut prendre tellement de formes esthétiquement et musicalement que non, il n'y a pas... évidemment, quand on prend le disque de Thomas Poli dont on parlait tout à l'heure, qui était en concert au Musée des Beaux-Arts. Alors Thomas Poli, c'est à la base qui est plutôt connu comme un guitariste. Il joue notamment avec Dominica, avec ce Psychic Lyrica. Là, c'est un disque de synthétiseur analogique. Donc c'est encore quelque chose de très particulier pour lui. On est plutôt férus de ça, en tout cas moi le premier sur ces questions-là, mais le projet qu'on fait avec Arnaud, dont je parlais aussi tout à l'heure, évidemment c'est un conte pour enfants, c'est une musique très légère, très...
Donc il n'y a pas de limite.
Voilà, et les projets qu'on sort, qu'on va sortir ces prochains mois, ils sont aussi très différents, donc... C'est plutôt l'exigence quoi. Il y a une forme d'exigence dans la construction, alors qui nous est très propre. On n'a pas de bataille esthétique à mener sur le territoire, hein. Mais on a bien une idée de ce qu'on veut faire. Ça peut prendre plein de couleurs différentes, mais à la mesure de ce qu'on disait. Hein. On a envie de plein de choses dans la journée, donc c'est sur une année, donc on a envie de beaucoup de choses très différentes les unes des autres.
En venant devant votre stand, on voit que vous êtes aussi dans la multiplicité de supports physiques, ouais. Puisqu'on a CD, vinyle et cassette.
Ouais, alors le CD devient de plus en plus rare, là sur le stand c'est plutôt les CD des copains.
D'accord.
Là en l'occurrence, on a les Cosmorons en CD dont je parlais, qui est un peu particulier parce que c'est un conte qui dure presque 2 heures, parce que c'est 20 épisodes de 5, 6, 7, 8 minutes, donc forcément, on en parlait tout à l'heure en off, en vinyle, pour un projet d'action culturelle, ça aurait été un petit peu compliqué au niveau des budgets quand même. Là, c'est quand même quelque chose qu'on a réussi à vendre très peu cher aux enfants, et on était content de le faire comme ça. Autrement, ça aurait été on ferait pas un disque vinyle, un triple disque vinyle à des enfants à 70 euros, c'est un peu compliqué. Donc c'est un peu ça qu'il nécessite, mais en effet, on sort de la cassette, on sort du disque vinyle. Et évidemment, on a aussi des projets qui sont que digitaux, ça c'est aussi à noter. Pas par faiblesse, parce qu'il y a des choses qui nous paraissent des fois intéressantes en digital et c'est tout. On fraye avec toutes ces choses-là parce que ça nous paraît logique. En fait, il y a des choses qui sont adaptées. Avec Nicolas, on est des années 80. Et la cassette, c'est un objet qu'on a connu. Le vinyle, c'est un objet qu'on a connu. Le CD, c'est un objet qu'on a détesté. on les connaît tous et on sait qu'ils sont adaptés, notamment à des esthétiques musicales. Et il y a des esthétiques musicales qui vont très bien avec notamment la cassette.
Chacun leur avantage. Quoi.
C'est ça.
Il n'y a pas un qui est plus obsolète que...
Pour moi, là, si je devais donner mon sentiment, le meilleur des supports de tous les temps, c'est quand même la cassette. Hein. La mini-cassette de chez Philips, c'est vraiment, je pense...
Même en termes de qualité son.
La qualité est là et c'est surtout le prix qui est là. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi que la musique s'est diffusée autant quand même dans les années 70 et 80. Hein, c'est que c'était un support qui coûtait quand même pas grand-chose et qui est très pratique. Voilà, on rentre dans une poche.
Ça l'était, mais maintenant, finalement, ouais. Ça devient pas une performance de réécouter des cassettes.
C'est pareil, on en parlait en off.
Peut-être fallait qu'on s'équipe à la radio, tu vois, pour écouter les cassettes.
Je pense que, en effet, l'objet en France, il est plutôt considéré comme un goodies en ce moment. C'est-à-dire que les gens, quand ils nous achètent des cassettes, ils achètent l'option de pouvoir télécharger de la musique. Parce qu'évidemment, il y a des download codes. Il y a la musique en numérique qui va avec et les gens ont un objet. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi en France qui font ça avec le vinyle. C'est-à-dire qu'ils s'achètent des objets.
Ouais,
ils s'achètent un peu l'idée d'un groupe. Alors c'est toujours mieux que d'acheter des t-shirts. Parce que moi, je suis un label de musique, donc je vends des disques et pas des t-shirts. mais je pense que c'est un peu la même idée quoi. C'est un peu l'idée de juste d'un objet qui les fera penser au groupe.
Mais je pense que les gens, ils achètent la cassette, mais ils écoutent le.
Oui, la majorité. Mais après, il y a plein de gens, nous, c'est le cas aussi. Et puis, on a plein de copains qui le font, qui vont rechercher une platine cassette, qui réécoutent de la cassette, parce que en fait, le marché, plus il y en a, plus on en achète.
Il y a encore des boîtes alors qui font.
Ah oui, il y a carrément des boîtes dans le monde qui font ça en France, en Angleterre, France. Au Portugal, au Canada. En l'occurrence, nos cassettes, il y en a une partie qu'on produit nous-mêmes, qu'on grave nous-mêmes, qu'on presse nous-mêmes, et puis une autre partie qui sont produites soit au Canada, soit en Angleterre. Donc oui, il y a encore des gens qui font ça. Il y a une demande, selon les esthétiques, et puis... dans mes activités, je suis notamment conférencier, j'ai des conférences sur le sujet. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde encore où on achète et on écoute de la cassette. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Notamment en Afrique, puisqu'on leur refourgue nos cassettes, on leur refourgue nos lecteurs cassettes. Et du coup, on produit encore des cassettes plutôt pirates, j'imagine, mais quand même. C'est toujours un moyen d'écouter de la cassette.
Ça reste un support.
Pour les plus techniques d'entre nous, c'est un support qui est vraiment équivalent au support analogique du vinyle. Les mêmes caractéristiques techniques, des dynamiques un peu différentes, mais quand on écoute du post-punk, la cassette, c'est une vraie arme.
Et puis comme tu dis, il y a aussi y a certains projets qui ne sont sortis que sur cassette à une certaine époque.
Oui, oui.
Donc aujourd'hui, on voit, enfin, je pense au label AWESOM, attends, comment ça
AWESOM Tapes of Africa. Africa.
Où le gars, voilà, s'est construit un espèce de catalogue énormissime, uniquement dans diguer les cassettes en Afrique.
Et en mixant avec, d'ailleurs. Ouais. Il a développé tout ça.
Oui, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi la question de la durée. C'est que là, on va sortir à la fin de l'année une compilation qui fera plus de 90 minutes. Je connais qu'un seul support qui, facilement, pour peu cher, fait 90 minutes. C'est la cassette.
Ah non, la cassette. Ouais.
Et au-delà de tout ce qu'on disait, tout ce dont on parlait, est-ce que vous faites des événements aussi hors structure? Enfin, je veux dire, vous proposez des concerts, des choses comme ça?
Alors, on est booker aussi pour certains projets du label, pas tous. Il n'y a pas une systématique, mais avec l'arrivée de Nico, qui a plus un côté production scénique, on a remis ça un peu au goût du jour. On le faisait beaucoup au début, et moi, je l'ai arrêté parce que ça me... fatigué un peu, c'est pas trop mon domaine. Donc ça, on refait ça, et puis on va dire que depuis 2-3 ans, on est dans un... on se reprojette vers l'extérieur, vers la production scénique. Alors on va faire un concert là, avec une autre structure tourangelle qui s'appelle Wolfpack Asso. On fait un concert le 18 avril ici, on fait jouer Golden Boots au Temps Machine. De temps en temps, on refait des petites choses. On a un lieu aussi, nos bureaux sont derrière la cathédrale à Tours, ça s'appelle Delta. C'est des espaces partagés, et donc vous pouvez retrouver notre boutique à l'année là-bas. Notre distro est celle des copains, et puis des fois on fait des petits concerts aussi, on fait des petites formes. Donc on va dire que de plus en plus on va retourner vers ça, mais ça reste épisodique. Mais bon, hier c'était le cas avec Thomas pour Superflu. On a la chance de faire des chouettes projets. Quand on en fait en ce moment, c'est... c'est des choses qu'on aurait rêvé de faire il y a des années. Donc,
Est-ce que tu peux nous donner l'adresse exacte du Delta pour personnes veulent venir vous rencontrer physiquement?
Absolument. Delta, c'est 4 places des Petites Boucheries. Donc c'est vraiment la petite place qui est derrière la rue Racine, derrière la cathédrale, entre cathédrale et Blanqui, entre Colbert et Blanqui. Mmh. Voilà.
Très bien.
Et on te remercie beaucoup d'être venu en plateau.
Merci à vous, c'est toujours
agréable. Je crois que tu vas pouvoir nous parler de ton... Ouais. De ton petit choix.
Quel est ton choix?
Alors, du coup, on en a déjà pas mal parlé, donc c'est bien, on va pouvoir raccourcir. C'est donc le projet de Thomas Poli, dont on parlait, qui a joué hier au Festival Superflu au Musée des Beaux-Arts. Donc, un disque joué sur des verbos, des synthétiseurs analogiques, qui est enregistré en direct, directement sur piste, sur bande magnétique. Donc on passe de la bande magnétique au vinyle. Il n'y a pas de mix, c'est du direct. Et donc c'est un travail musical qui a été fait sur une œuvre plastique d'un plasticien qui s'appelle Flavien Théry, qui est une tapisserie. Alors attention, il faut s'accrocher un petit peu. Une tapisserie, un tapis, sur lequel on peut d'ailleurs marcher. Une tapisserie qui est tissé en stéréoscopique, donc en 3D, et qui représente une vallée de Mars qui s'appelle Candor Casma. Donc, et le, alors, là, on ne le voit pas à la radio. On le voit, je ne sais pas si vous le voyez bien à la radio. Non, on ne le voit pas à la radio.
Pas encore.
Voilà.
Peut-être bientôt.
Peut-être bientôt, mais ce n'est pas là. Le disque reprend cette tapisserie, en fait. Donc, c'est un gatefold où on a cette vallée de Mars en stéréoscopique. Et donc, le disque est vendu avec des lunettes
avec
3D.
Des lunettes, ouais. Oui.
Donc, évidemment, je l'ai dit, on était des enfants des années 80. Ça se c'est... sent un petit peu, là. Donc, voilà, ça lie ce travail de cet artiste. Et puis voilà, nous on est derrière pour les soutenir, et pour les soutenir et en disque et en scène.
Et ben alors soutenons-les en les écoutant sur l'antenne tout de suite, ouais, sur le 99.
Ah, gros merci.
Merci encore,
merci ouais, encore facile. Une fois.
Et puis là on va se laisser aller tranquillement donc vers un voyage vers Mars, hein, c'est ça, c'est voilà. Ça.
En stéréoscopie. Avec les lunettes rouges et bleues.
Donc on rappelle juste le nom du label, de la structure, c'est un je ne sais quoi. On ne peut que soutenir les démarches parce que c'est quand même très très riche sous tout ce dont on vient d'entendre parler. Voilà, on est toujours sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, en vivant et en direct depuis le temps machine pour la bourse au disque. Le temps d'un disque d'ailleurs.
Le temps d'un disque, ouais. Ouais, c'est ça. Troisième édition.
Et le temps du réglage du disque. Ouais.
Et on y sera.
Mais on va y être dans un instant. Et voilà,
c'est
en direct et ça fonctionne très bien, même en vinyle.
Et ben voilà, on est toujours en direct et en vivant depuis le temps machine pour le temps d'un disque, troisième édition. Bah, il fait bon vivre ici, on peut vous le dire, clairement.
Mm-hmm. Toujours.
Toujours.
Et pendant encore quelques heures.
Ouais, pendant encore jusqu'à 18h. Hein. Donc vous pouvez venir. Moi, je n'ai pas compté le nombre d'exposants qu'il y avait, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Ce qu'on disait un peu en début d'émission, là, il y a un vaste et large choix, tant en termes de quantité qu'en termes de diversité, on va dire ça comme ça, parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs musicales qui sont représentées. Voilà, avec voilà, des raretés, des choses plus classiques, des labels qui sont présents, des disquaires qui sont présents. D'ailleurs, on y en a un qui arrive en plateau, donc on est bien content d'accueillir. Voilà.
Installe-toi.
Ouais. Et
bonjour à toi. Ouais,
pardon.
T'inquiète.
Oui, salut.
C'est le live.
Ouais. Donc, on accueille maintenant un représentant poitevin, on va dire ça comme ça.
Tout à fait.
Voilà, un représentant musical.
Pictavien même.
Pictavien, bah ouais, c'est ça, c'est Pictavien. La Pictavie, hein, c'est vrai. Donc, qui vient ici pour présenter Plexus Records.
Voilà, bah, c'est le shop de disques et de hi-fi dans lequel je bosse avec Guillaume maintenant depuis 3-4 ans. Ouais, ça va faire ça. La boutique existe depuis 8 ans à Poitiers maintenant. On a déménagé une fois pour une boutique un peu plus grande et puis voilà, bah, ça roule quoi.
Ouais. Et vous allez un petit peu au-delà aussi de la enfin du shop, quoi. Vous avez produit des choses aussi.
On a produit pas mal de trucs, quoi, aussi. On est un label qui était plutôt axé hip-hop, hip-hop instrumental à la base, et puis on s'est un peu élargi sur la musique électronique, la house, des choses comme ça. Voilà, on bosse surtout avec des mecs qu'on connaît, des amis qui font des prods qui nous plaisent. Voilà, c'est vraiment au feeling. On n'essaie pas non plus de surproduire et de faire une sortie par an ou des choses comme ça. C'est vraiment quand il y a le feeling et que le projet nous tient à cœur. Voilà, toujours en essayant de bien bosser les éditions, de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, avec une pochette sérigraphiée ou des trucs assez mignons, quoi. Mm-hmm.
Voilà. Et alors, comment se porte la scène poitevine?
Bah, plutôt bien, ouais, c'est cool. Enfin, nous, en tout cas, on a une bonne clientèle, on a un bon public qui réagit bien, qui nous suit pas mal, donc ça fait plaisir. Après, voilà, il y a des soirées... C'est pas la bamboule toutes les semaines, mais c'est cool, quoi. Il y a un petit public qui est bien réactif, donc c'est chouette.
Parce que même vous, au sein du magasin, si je dis pas de bêtises, vous organisez parfois des sets, des petits événements.
Aussi, voilà, ouais, on bosse avec des assos, avec différentes assos, notamment la mienne, Technogramma, voilà, qu'on organise des soirées en club, des soirées musique électronique plus, et du coup, ça nous arrive d'organiser des petits showcases à la boutique. Avec des DJ, on paye l'apéro, voilà, ça permet un peu de découvrir l'univers des artistes autres que dans le club ou dans les choses comme ça, donc c'est aussi chouette. Et puis s'ils ont des petits goodies ou des trucs à vendre, ça peut se faire aussi à la boutique, donc c'est chouette, quoi.
Mais c'est sympa pour la boutique aussi, je pense, ça permet.
Ouais, carrément, ça fait autre chose, ça fait un autre lieu que juste un lieu de vente musicale où on trouve juste des produits. Voilà, c'est aussi un lieu de partage et de vie, quoi, donc c'est chouette. Mm-hmm. C'est un peu ça aussi, je pense, maintenant. Le but d'un disquaire, c'est pas que juste de
c'est
d'y aller,
juste vendre des disques, ouais.
Ouais, de venir, de choper sa news, ou alors de diguer sa nouveauté, de faire une affaire ou quoi. C'est aussi, voilà, de passer un petit moment cool, quoi.
C'est aussi le fait de la difficulté à diffuser du support qui fait que vous êtes obligé de vous renouveler aussi dans la proposition.
Ouais, après c'est un moyen de donner aux gens d'avoir envie de rentrer dans cet univers-là, mais c'est aussi hyper naturel, quoi. Enfin, moi, je me vois pas juste vendre des scuds à longueur de journée, juste faire du conseil. C'est aussi partager un autre truc que ça, quoi. Enfin, je trouve. Après, il faut se renouveler, ça fait partie du boulot aussi, quoi. Mais c'est avant tout au feeling, je pense. Chacun le fait comme il sent. Il y en a qui, on voit beaucoup ces concepts de café disquaire qui émergent un peu partout, donc ça, c'est chouette aussi. Ça permet de ramener d'autres publics, je sais pas, mais c'est cool, quoi. Enfin, ouais. Y a plein de choses qui peuvent se greffer autour de ce métier-là, je trouve, et c'est ça qui est chouette aussi, quoi. Chacun peut y mettre un peu son petit grain de sel.
Et vous, ça, du coup, vous faites label aussi, c'est ça?
Ouais, tout à fait.
Du coup, ça vous permet, ouais, d'avoir une vitrine pour vos artistes
aussi, ouais. C'est aussi le but, ouais, clairement.
Et alors, du coup, est-ce que dans cette partie label, vous faites la diffusion? Vous faites quoi?
Nous, après, on fait appel à des distributeurs, voilà, propose le projet. Et puis après, bah, ils nous prennent une quantité donnée de disques. Et après, c'est eux qui se chargent de vendre les disques aux différents shops à travers le monde.
Et du coup, ça implique que votre label, les artistes que vous soutenez sortent forcément sur support? Ou vous faites aussi, on en parlait avec le je ne sais quoi, du coup, qui font aussi pas mal de numérique?
Oui, ouais, carrément. Bah, nous, après, il y a un Bandcamp, donc on peut aussi télécharger des albums en numérique. Parfois, ça nous arrive de faire des petites éditions limitées en cassette ou des choses comme ça, mais bon, là, c'est vraiment plus de la niche,
la
donc c'est vraiment, c'est vraiment édition limitée. Mais après, c'est un format que j'apprécie aussi beaucoup, qui permet aussi d'avoir un support physique analogique qui est assez chouette, qui a vraiment un son qui est typé et qui est vraiment pas cher à produire pour le coup, enfin qui est moins cher que le vinyle, parce que bon, ça reste un prix, mais c'est quand même chouette. Et puis ça correspond à pas mal de styles de musique au final actuel, le rock, la musique électronique, il y a pas mal de choses qui se sont faites à l'époque dans ce style là donc ça correspond bien.
Et alors, si tu dois nous présenter un peu les artistes que vous avez là en ce moment.
Alors, les derniers projets qu'on a eu, c'est on a sorti un album d'Albinos, du coup, qui est un producteur de musique électronique et DJ de Poitiers, et qui fait une sorte de house un peu baléarique, deep, qui est assez chouette, vraiment détente, très hyper hyper été. Et l'album a plutôt bien fonctionné. Ça a été élu numéro 1 de l'année 2018 par Phonica, qui est le big shop de Londres, du coup. Donc ils suivent le gars depuis assez longtemps, donc c'est pas étonnant qu'ils aient kiffé l'album, mais du coup on était assez content que ça ait été reçu comme ça. Donc voilà, ça c'était un succès. Et puis après on a bossé avec Meizo aussi, qui est le DJ de Lompal, qui est producteur aussi, voilà, qui fait pas mal de prod. Donc ça c'est plus hip hop du coup, instrumental, trap. Il y a quelques featuring avec Jean-Jacques Caballero sur l'album. Et puis on a bossé aussi avec Sampling, du coup, qui lui est pas de la région, mais qui est un bon pote à nous, et qui fait, lui, pareil, hip-hop instrumental, mais qui est vraiment jazzy, plus boom-bap, vraiment très chill. Et voilà, après, c'était beaucoup hip-hop, après, dans les premières sorties
ouais,
aussi.
Ouais, donc vous êtes vraiment musique électronique, hip-hop.
Voilà, plus dans ce style-là. Après, on est toujours ouvert à d'autres projets qui peuvent nous intéresser, pas forcément dans ces styles-là. Après, c'est vraiment feeling, comme j'ai dit, c'est en fonction.
Et il y a des projets-là qui sont en cours? Parce que tu me parles que c'est déjà sorti en
ouais,
fait.
Oui, carrément. Alors justement, là en ce moment, on n'a pas eu trop le temps de s'occuper parce qu'on a eu pas mal d'administratifs à faire avec la boutique. Ça a été un peu long tout ça, donc on a mis un peu en suspens le label, mais ça ne saurait tarder. On est toujours en contact avec d'autres artistes qui ont des petits projets en préparation, donc ça se fera certainement de ces quatre.
Donc là, il n'y a pas d'objectif particulier, c'est vraiment...
Vis-à-vis du label, non, c'est vraiment pour se faire plaisir. Il n'y a pas de business autour de ça. Qui est fait pour fructuer ou quoi que ce soit, c'est vraiment histoire de produire, de rentrer dans nos clous et puis de se faire plaisir, quoi.
Ok.
Et si on en revient à l'événement d'aujourd'hui, mm-hmm. puisque bon, vous avez une boutique quand même, vous avez un Bandcamp, vous avez vous passez aussi par internet, est-ce que c'est important quand même pour vous d'être présent sur ce type d'événement que
ouais, comme, bien
comme
sûr. Oui, bien sûr, c'est hyper important. Enfin, moi, je préfère mille fois vendre un disque en main à main plutôt que sur le net. C'est bien plus agréable, quoi. Donc les bourses disques, c'est fait pour ça. Il faut être présent, il faut montrer qu'on est là et que diguer du disque, c'est avant tout par le main à main et pas sur le net, quoi. Le net, c'est très bien pour quand on cherche un truc très précis. Voilà, donc c'est indispensable aujourd'hui, c'est chouette, mais le top, c'est quand même d'aller voir un disquaire, quelqu'un qui s'y connaît, de créer un lien et puis et voilà.
Et vous en faites du coup régulièrement, vous allez là, c'est pas hyper loin?
Pas tellement, non, là on fait celle de Tours parce que voilà, on connaît Anthony et que. Et qu'il y a une bonne ambiance toujours, donc c'est un plaisir d'y participer, mais c'est vrai qu'on n'en fait pas tellement, pas énormément. On est un peu flemmard là-dessus.
Et à Poitiers, il y en a?
Il y a une petite qui est à Fontaine, à côté de Poitiers, ouais, à laquelle on participe aussi tous les ans.
Ok. Voilà.
On est privilégié alors ici.
Ouais.
Voilà, exactement.
Je ne sais pas trop dans quelle mesure, je ne connais pas tous les exposants, mais les gens sont venus de loin ou pas, vous en parliez
les
un peu tout à l'heure.
Les plus loin,
mais...
ce serait bien les Bourguignons.
Ouais, quand même.
Ouais. Dans le Lyon.
Oui, en effet.
Quelques heures de route,
300 km
avant d'arriver en Touraine.
Ouais.
Je crois que tu nous as ramené une petite.
Ouais, j'ai sorti un petit truc de mes bacs, du coup, un disque qui est pas tout récent, qui date de 2017, mais que je recommande toujours à mes clients qui aiment bien les trucs un peu prog, psychédéliques, avec des influences un peu jazzy. En fait, ça sonne complètement californien, 70, psyché, yes. Un peu planant, donc j'aime beaucoup ce disque.
C'est la musique des 14h30, c'est bien.
Chas Bundick avec les Madson 2, du coup Chas Bundick qui est aussi connu sous le nom de Toro et moi, qui a sorti un album tout récemment, qui est beaucoup plus pop électronique. Mais voilà, il explore plein de styles différents et il le fait toujours avec brio. Donc c'est assez chouette, il a fait un album plus ambiante, house, et du coup celui-là est vraiment complètement 70s, psyché californien, donc voilà, je recommande chaudement.
Ok.
Très bien.
Celui-là.
Allez.
Bah, écoute, bah, on se met ça.
Ok, ouais. C'est un instant
juste
pour
une,
aller.
Une petite question quand même, parce que si jamais il y a des auditrices et des auditeurs de Poitiers qui vont passer par Poitiers, qui sachent où ça se trouve exactement, Plexus Records.
Oui, pas donner l'adresse. 172 Grand Rue. Voilà.
Ok.
Premier carrefour de la Grand Rue à côté de la place, place du marché.
Ok, bah voilà, comme ça vous avez l'info. Merci beaucoup
merci
d'être venu.
Ouais,
avec plaisir. Merci à vous.
Puis on te laisse du coup poser ton petit
le disque.
Ah,
ouais.
Et nous, on va se, donc, écouter la proposition de Plexus et se retrouver juste après avec Vintage.
Avec Vintage Référence, ouais, exactement. Qui tient un atelier donc, de conseil IFI, conseil matériel IFI, sur le temps d'un disque, là, aujourd'hui, dans la grande salle. Parce qu'il faut aussi savoir que toute. L'ensemble de l'espace du temps machine est investi par cette bourse.
C'est ça.
Ah bah c'est complet, il n'y a plus de place.
Ouais,
ça
ouais.
Discute, ça échange.
Venez voir.
Grande salle, hall d'entrée, voilà.
La plus que vingtaine.
Et bah c'est
alors
parti.
Alors on me fait signe à la régie que c'est bon.
Pour la sélection Made in Plexus Records sur Radio Campus Tour.
À tout de suite.
À tout de suite. Et ben voilà, on est toujours en direct du Temps d'un Disque, 3ème édition Autant Machine, en ce dimanche 24 mars. Et c'est toujours sur Radio Campus Tour, à 99.5 FM. Et on continue donc d'accueillir différents acteurs de cet événement en la personne de Guillaume de Vintage Référence. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Merci de venir nous rendre visite. Alors on va commencer par le début en fait. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est que Vintage Référence ?
Alors Vintage Référence, c'est une volonté de ma part de d'expliquer aux personnes que le matériel hi-fi d'époque était un matériel de qualité et puis permettre à beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément le budget de pouvoir s'équiper avec ce matériel. Parce qu'à savoir que le domaine de l'hi-fi est un domaine quand même relativement élitiste dans le sens où les prix pratiqués sont quand même relativement élevés et puis bon voilà, ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément un grand budget de pouvoir s'équiper en matériel hi-fi de qualité. Ça permet aussi de pouvoir apporter une seconde vie à du matériel ancien et de pouvoir le remettre en circulation, offrir un petit peu une seconde vie quoi.
D'accord, donc ça veut dire en fait en gros si on a je sais pas une vieille platine qui fonctionne plus ou qui je sais pas crachote à fond, c'est pas trop s'il faut qu'on la garde ou pas, on peut venir te voir.
Exactement, ouais. Le but c'est ça, c'est j'essaie de sauver un maximum ces appareils du système déchetterie et puis de les remettre en fonction s'il est possible de les remettre en fonction, sinon récupérer des pièces pour pouvoir en sauver d'autres et puis voilà quoi. Voilà. Ça c'est la démarche la démarche principale en tout cas d'une telle référence, c'est ça.
Ça c'est la base du projet, ensuite vous faites aussi du neuf du coup.
Non, pas du tout. Pas du tout de neuf. Non, je reste vraiment axé sur l'occasion. Le problème avec le neuf à l'heure actuelle, c'est que je vous dis, si vous avez un bon budget, vous pouvez vous équiper avec des appareils de qualité qui vont durer dans le temps. Si vous n'avez pas un bon budget, malheureusement, ce qui est vendu aujourd'hui n'est pas. Enfin voilà, c'est pas du jetable, mais ça tient pas très très longtemps. Donc,
vous achetez du pas cher et vous revenez chez Vintage Référence après, dans 3 ans, pour réparer quoi.
Qu'est-ce que c'est un bon budget pour quelqu'un qui souhaiterait acheter du neuf avant de parler d'un budget d'occasion?
En budget, alors vous avez des choses exceptionnelles, hein, vraiment des très très bonnes choses qui se font, je pense à des marques type NAD ou bon voilà, il y a des très très bonnes choses, mais disons que si vous voulez vraiment vous constituer un système basique avec un amplificateur et une bonne paire d'enceintes et une bonne platine vinyle par exemple.
Allez, en nombre de SMIC.
C'est compliqué, mais je dirais que si vous voulez avoir quelque chose en tout cas qui tienne la route, ouais, il faudrait avoisiner les 2000 euros à peu près.
D'accord. C'est un budget quand même.
Ouais, c'est quand même un budget. Donc je pense à beaucoup d'étudiants. Ça fait déjà 10 ans, enfin 12 ans que je travaille dans ce secteur-là. J'étais responsable du secteur musique en règle générale dans une structure déjà qui faisait de l'achat-vente de matériel d'occasion avant. Et je me suis vraiment rendu compte que rien qu'un étudiant, par exemple, n'a pas la possibilité de s'acheter une chaîne hi-fi. Et pourtant, il en a bien envie. Il en a marre d'écouter sa musique sur son ordinateur, marre d'aller écouter ça sur son kit de points de PC. Et puis voilà, pourquoi pas se faire plaisir et s'acheter une chaîne hi-fi. Et mon rôle, c'est justement de l'orienter vers ces appareils-là, en leur expliquant un maximum, en les sensibilisant vraiment sur le fait que oui, ok, c'est vieux, mais en attendant, voilà, ça peut être révisé. Enfin, c'est ce que je fais. C'est pour ça d'ailleurs que je revends mes articles avec une garantie. Et disons que les appareils à cette époque-là étaient conçus pour durer quand même dans le temps. La démarche en termes de consommation n'était pas du tout la même. Enfin, le consommateur ne demandait pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, on le ressent énormément quand je rachète des appareils sous facture. Qui date des années 70 par exemple, les gens me disaient voilà, on a économisé pendant 3 mois pour s'acheter l'ampli, ensuite on a économisé 3 mois de plus pour s'acheter la paire d'enceintes. Donc voilà, si on devait remettre les prix de l'époque au prix d'aujourd'hui, il est clair qu'on arriverait à peu près au même tarif. Seulement voilà, c'est un petit peu normal qu'on arrive à les trouver encore aujourd'hui fonctionnels et puis une simple révision parfois peut les remettre en circulation pour de nombreuses années encore derrière.
Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut venir te rencontrer pour de la réparation, de la révision, mais également pour de l'achat matériel.
Alors pour de l'achat matériel, tout ce qui concerne l'achat et la revente de matériel, c'est Vintage Référence. Moi je ne m'occupe que de cette partie là
D'accord.
Okay. Voilà, c'est mon petit bébé, c'est mon entreprise. Après je travaille aussi à côté en tant que salarié d'une entreprise qui s'appelle Valvedi Electronique, qui est située dans les mêmes locaux que Vintage Référence à Tournord, donc au 56 rue de Suède. Et là pour le coup, ce n'est que de la réparation de matériel travailler à l'IFI Vintage. Bon, il y a aussi d'autres. On travaille sur d'autres choses aussi en électronique, mais disons que notre spécialité, c'est vraiment la réparation et la restauration de matériel IFI Vintage. Donc là, tout ce qui va être des appareils de collection ou même le petit ampli qui appartenait à grand-père ou grand-père et puis qu'on veut sauver. Voilà. Mais ça, c'est la partie Valve et électronique. Ce n'est pas Vintage Référence. Vintage Référence, c'est juste de l'achat-vente de matériel.
D'accord. Et quand on parle de. Est-ce que donc tu nous parlais de matériel plutôt ancien, est-ce qu'il y a une date référence à laquelle, au-dessus de laquelle on ne peut pas aller si on vient vous trouver?
Ça dépend.
La date de la création de l'obsolescence programmée.
Ouais. Alors l'obsolescence programmée, c'est encore autre chose. On pourra en débattre pendant très longtemps, mais je dirais
il
que
35 minutes.
Voilà, c'est là où c'est compliqué. Non, je dirais que on va dire que mi-90, les choses ont commencé à se gâter. Après, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'on est dans un rouage aujourd'hui où la plupart des personnes se sentent victimes d'un système, à savoir que je pense qu'un grand, grand nombre sont persuadés d'être victimes de ce que leur imposent les constructeurs. Moi, je pense que la règle qu'il faut pas oublier, c'est que je pense que les constructeurs s'adaptent aux consommateurs. Et le consommateur, à l'heure actuelle, est très exigeant. On lui a offert beaucoup de liberté, beaucoup de facilité pendant pas mal de temps. Et aujourd'hui, il veut de l'efficace, il veut du pas cher, il veut du tout en un. Et voilà, je pense que les constructeurs se sont adaptés à tout ça. Et voilà pourquoi faire des appareils qui vont durer dans le temps si c'est pour que derrière les gens finalement se lassent de leurs appareils et puis veulent d'autres choses. Voilà. Ce qui n'était pas du tout la même démarche en fait que dans les années 70-80, même début 90, quoi. C'était pas du tout la même réflexion.
D'accord, donc mi-90.
Ouais, ok, on va dire ça. Non, mais il y a eu du cheap, hein, il y a eu de l'entrée de gamme très mal conçue un peu dans toutes les années, mais disons que pour moi, pour ma part, je pense que oui, le système s'est un peu inversé à ce moment-là, ouais.
Ok. Bon, en tout cas, ce qu'on entend, c'est que si jamais voilà, tu as trouvé une belle petite machine dans le grenier de chez mamie, par exemple, et que tu veux que tu aies l'affect pour ça, ou que même tu te dis voilà, on peut la faire remarcher, tu peux aller au 56 rue de Suède.
Exactement. Tournant, ouais. C'est ça. Ouais. Okay. On est disons que voilà sur la IFI Vintage à Tours, et malheureusement on est de moins en moins en France à faire ce métier-là. Ouais, je dirais que bah, de toute façon c'est la seule adresse. Ouais.
Ah, okay. C'est la seule adresse. Okay. Et c'est important pour toi d'être sur des événements comme celui d'aujourd'hui?
Oui, bien sûr, oui, parce que déjà Vintage Référence est très récent, ça a été créé il y a un an et demi, et puis voilà, là on est sur une foire au disque, la plupart des personnes qui écoutent des vinyles sont des personnes qui sont quand même sensibles au matériel, pas mal de mélomanes, donc c'est des gens qui se préoccupent aussi de la qualité de l'écoute, donc oui, c'est important, ouais, c'est important pour me faire connaître, c'est important aussi de rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, des personnes qui ne me suivent pas forcément habituellement, là, voilà, j'ai pas mal là, justement depuis ce matin dialogué avec diverses personnes qui sont venues pour me poser des questions et puis voilà, ouais, c'est important, ouais, c'est important pour moi.
Ouais. Ok.
Bah, très bien.
Ouais, écoute, on te remercie d'être venu.
Mais merci à vous.
On coupe un peu court, mais là on voit que l'heure avance et donc il faut
qu'on soucis.
Encore du monde à accueillir. Donc comme tes prédécesseurs, t'es venu avec une petite galette là.
Ouais.
Qu'en est-il?
J'ai sélectionné un grand classique, hein, du coup. J'ai sélectionné le machinette de Deep Purple, hein, que j'ai du mal à sortir de la pochette en tenant le micro.
Allez.
Voilà. Et je voudrais, à travers cette chanson-là, faire un petit clin d'œil en fait à la plupart de mes potes. Parce qu'on est des grands fans en fait de ce groupe et notamment de la chanson qui va suivre, du coup, qui s'appelle Lazy.
Eh bien, on te laisse l'installer. Ah. Ou d'accord. Allez, j'y vais, je sens. C'est la communication non verbale difficilement visible en radio.
C'est la partie, ouais.
Mais ça fait, c'est bien un petit peu de rock là, ça va.
Ouais.
C'est cool, on l'avait pas encore eu.
Donc comme ça montre encore plus à nos auditeurs qu'il y a de la diversité depuis rien que nous.
Exactement.
Dans les sons que vous nous proposez depuis tout à l'heure. Ah. Et donc de la diversité sur dans les bacs.
En tout cas, un grand merci Guillaume, hein, d'être venu.
Merci à vous.
T'es là jusqu'à 18h, hein, j'imagine.
Exactement.
Voilà. Et après, voilà. Rue de Suède.
Et après, 56 rue de Suède, voilà, ouais. Tournant. Ouais. Okay.
Et bien, longue vie à Vintage Référence.
Merci. Bon courage, merci.
Merci. Donc on est toujours sur les ondes de Radio Campus Tour, c'est toujours en direct du Temps Machine. Sache que le lieu est ouvert à tout le monde jusqu'à 18h, comme on vient de le dire. C'est bon ? Et ben alors, je vais essayer de pousser le potard. Ah oui, on fait ça. Je le ramène tout à l'heure. Oui.
Merci, Pika.
Toujours donc sur les ondes de Radio Campus Tour en direct de la bourse, enfin le temps d'un disque au Temps Machine. Donc c'est voilà une bourse au disque organisée par Nove Nove Cinco qui rassemble pas mal de collectionneurs, de shops et de passionnés en fait. Et là donc on va se terminer l'émission l'émission radio qui était jusqu'à 15h avec Minitel Records qui sont là avec nous autour de la table, Martin et Charles.
Salut.
Bonjour.
Bonjour.
Et Julien qui nous rattrape. Et donc bah, vous venez un petit peu comme les autres, peut-être présenter un petit peu votre Minitel Records.
Ouais, c'est ça. Donc on est présent aujourd'hui. Bon, pour vendre quelques CD, mais eux aussi pour se montrer un peu. Parce que ça fait 3 ans qu'on a commencé le label.
Ouais.
Et bon, on n'est pas encore hyper connu. Et voilà, c'est important de se montrer, quoi.
Et vous êtes donc Tourangeau.
Ouais.
Oui,
à la base.
Et alors comment ça s'est créé? C'était le label, c'était l'arrivée de projet, c'était l'envie de...
En fait, à la toute base, c'était pour sortir nos propres morceaux.
Ok.
Parce qu'on est tous les deux, on fait tous les deux de la musique séparément, ou ça nous arrive de jouer ensemble aussi. Et donc l'envie de base, c'était ça, de pouvoir sortir nos propres morceaux, avoir une structure. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'on voulait aussi faire découvrir aux autres d'autres musiciens. Donc on cherche constamment des bons trucs et dès quelque chose qui nous plaît, du coup on contacte ou on est contacté et on travaille pour sortir des albums ou des EP. Ouais.
Okay.
Et vous travaillez uniquement avec des artistes locaux ou ça va au-delà de l'agglomération?
Ouais. Ah non, dès le départ, on a contacté les artistes qui nous plaisaient et on a commencé par travailler avec Steels qui habite à Vancouver au Canada.
Okay. Bien de l'agglomération. Là, c'est vrai.
Ensuite, on a Robert Quester qui est qui habite à Cologne, ouais, en Allemagne. Ouais. On a un artiste de Strasbourg et un duo de Nice.
Ouais.
Et alors, dans quelle esthétique vous placez, du coup? Est-ce que vous faites un petit peu tous les styles de musique ou...
Non, c'est basé sur le rétro années 80-90.
Ok. Ouais.
Minitel Records.
Bah oui, c'est ça.
Évidemment.
J'ai avancé ma question.
Ok. Et alors, ces artistes, vos musiques respectives, vous avez des petits noms?
Ouais, moi c'est Warng. Et...
Ok. Moi c'est Arsoni.
Et donc vous avez commencé par sortir vos projets à vous, et puis ensuite vous êtes...
J'ai, nos deux EP étaient les premiers EP à sortir sur le label.
Ok.
Et puis ensuite, on a enchaîné avec Steels, et puis d'autres artistes au fur et à mesure.
Et vous travaillez pas mal, là je vois que vous nous avez amené des pistes en numérique, du coup.
Ouais.
C'est peut-être aussi une particularité, je sais pas trop, si vous faites... plein de tous les supports, enfin voilà, on parlait de la cassette tout à l'heure.
Bah, on fait les deux, on fait surtout digital parce que c'est moins cher surtout, c'est ça le truc en fait, c'est qu'on a pas les moyens pour l'instant de faire des vinyles, des grosses sorties vinyles. On fait des éditions limitées en CD, parce qu'on peut se le permettre, et en fait on aime bien le côté édition limitée, c'est-à-dire que s'il y a une sortie, elle ressortira plus, après il faut vraiment l'acheter sur le moment et après elle sera plus rééditée, quoi, c'est sûr.
Ok. Assez inédit, quoi.
On a fait une exception pour
Pour Steels. Ouais.
Pour Steels.
Ouais.
On avait sorti son EP donc Haute en 2016.
En digital.
Digital seulement. Et puis on a fait une édition CD fin 2018 avec de nouveaux remixes parce que c'est vraiment un EP qui a très bien marché. Et c'était aussi pour la sortie d'un clip.
Un clip. Ouais.
Tourné par un réalisateur de Los Angeles qui s'appelle Dan
Psygoda,
ouais. Voilà, donc c'était un événement, on a marqué le coup en sortant un CD, voilà, ouais. C'était l'occasion.
Et alors du coup le fait de travailler avec des artistes internationaux, est-ce que c'est un enjeu vraiment important quand on est un jeune label de directement faire fonctionner son réseau, ou alors c'est des gens que vous avez avec qui juste vous avez envie de travailler avec eux
Ça marche au feeling. Ça marche au feeling, ouais. C'est pas forcément, enfin c'est pas calculé en fait. Ça marche vraiment. Si on ressent un truc, on travaille avec et puis.
Parce que est-ce que ça aurait pas été plus facile justement pour se lancer de travailler avec des gens dans la proximité?
Si, sans doute. Ouais. Mais la distance nous a pas dérangé. Enfin, on a travaillé pendant plusieurs mois à très longue distance. On était tous les deux à l'autre bout du monde.
Okay.
Et on a quand même sorti justement l'EP de Steels en 2016 alors qu'on était tous les deux à l'étranger et ça n'avait pas été un souci. Ouais.
C'est la magie des nouveaux réseaux de communication.
Voilà,
quoi,
hein. Exact.
Les nouveaux moyens de communication en tout cas.
Et alors quels sont vos objectifs du coup là pour 3 ans, je sais pas, faire évoluer le...
Là on a envie de faire on a envie de faire de plus en plus de concerts, d'organiser des concerts pour nos artistes. Ça, on a un peu de mal pour l'instant à trouver les bons contacts, les bons endroits. C'est pas très facile. Et on veut aussi essayer de sortir des vinyles.
Ça
demande des moyens financiers. On est en train d'y arriver, mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore.
Il y a quand même donc cette idée de sortir un petit peu de la structure et donc de venir hors mur, on va dire, entre guillemets, c'est le terme qu'on utilise en radio généralement, et donc de créer des lives qui soient labellisés Minitel Records. Quoi.
Exactement.
Ouais. D'accord. D'accord, il va falloir me tenir au courant, les gars.
Oui, justement. Justement, oui, il faudrait qu'on en parle.
Ça marche. On court un petit peu après le temps. On va peut-être passer à la présentation des petits morceaux que vous avez amenés, parce que je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps.
Ah oui, c'est bientôt la fin. Alors, pour pouvoir continuer à discuter hors antenne de ce que l'on vient de parler en antenne, on voudrait profiter de ce que vous avez peut-être créé ou de ce que vous produisez.
Alors, le premier morceau, c'est Stills. C'est l'EP qu'on a réédité en CD.
Ok.
Et le deuxième morceau, c'est Warring, donc c'est moi. Je me jette des fleurs.
Tu as raison. L'autopromo, c'est important.
Ça marche pas mal.
C'est hyper radiophonique.
C'est un inédit. Le deuxième morceau, il n'est pas encore sorti. Et il est prévu dans quelques mois.
D'accord.
On travaille sur la sortie.
Et juste pour clore tout ça, Minitel Records, on vous retrouve où, comment
et dans les années 80.
Eh ben super.
Non, on a un site web, on a un Bandcamp, Facebook.
Militairrecords.com, c'est bon, c'est notre site.
Ok, bon bah nickel. Très
bien.
Merci beaucoup les gars.
Merci.
Ce passage rapide merci à tous pour le direct. Je pense qu'on va se dire.
Moi je voulais faire un petit big up aussi. Parce qu'il y a un mec qu'on n'a pas big upé là qui est justement chez vous, c'est John aussi.
Merci à
parce qu'il était là aussi à la base. C'est quand même un des premiers initiateurs avec Anthony.
Un des co-réalisateurs.
Donc big up au bonhomme. Ouais. Merci autant Machine et puis merci à Radio Campus Tour pour les moyens radiophoniques. Merci Mathilde d'être venue un dimanche.
C'était chouette.
Et puis le temps d'un disque, ça continue jusqu'à 18h ce soir.
Exactement.
Merci Julien.
Merci
et
Stéphane.
Juste avant de partir, on a écouté Deep Purple avant et c'était pas donc Lazy comme annoncé mais Space Twerking.
C'est bien aussi.
Voilà, rendons à Deep Purple ce qui appartient à Deep Purple.
Et puis maintenant on s'écoute
Stills avec ce titre Haute.
Allez, Minitel Records, encore merci les gars.
Merci à vous.
C'est cool. Sur campus. Et merci à tous les intervenants aussi qui sont passés aujourd'hui. Ciao, ciao.
This is Hugo Mendez from Sofrito.
Sofrito.
You're listening to Radio Campus Tour on 99.5 FM.